Marie-Pascale Dubé, je suis enchanté d'être interviewé. Nous sommes donc au Festival international du film de montagne à Autran en 2019. Et tu viens présenter un film documentaire qui s'appelle Rouge Gorge. Et ce film documentaire, c'est un, moi je le trouve, un film documentaire initiatique. Et donc initiatique sur tes origines, sur une identité et sur aussi un travail artistique. Et donc c'est le chant. Est-ce que tu peux nous présenter ton film, cette recherche artistique ?
Oui, la recherche artistique, elle est venue un peu... Après, dans un deuxième temps, au départ, c'était vraiment des sons avant d'être un chant, en fait. Des sons qui sont sortis de mon corps naturellement, de manière un peu étrange quand j'avais 8-9 ans, quand j'étais enfant. Tous les sons que je qualifie en dessous de la voix, tout ce qui est en dessous qui roule et qui me masse. Et c'est sorti comme ça naturellement, c'est ce que ma mère raconte. Et c'est un peu plus tard, vers 12-13 ans, je suis tombée sur un disque de musique inuite du Grand Nord canadien. Et sur ce disque, il y avait des chants de gorge, inuits qui sont des chants traditionnellement féminins. Et là, j'ai reconnu tous les sons étranges de ma voix, les sons trop graves pour une petite fille. Et ça, cet enregistrement m'a... Il y avait... C'est irrationnel, mais quelque chose de l'ordre de l'évidence, comme si c'était vraiment mes sons, ma voix. Et j'ai essayé de reproduire ce que j'entendais, mais comme un jeu ou quelque chose qui me faisait du bien, qui à la fois continuait de me mettre un petit peu, pas à l'écart, mais comme si dès ma naissance, j'avais eu des symptômes autochtones, je sais pas comment dire, mais quand ma sœur a les yeux verts, la peau très claire, moi quand je suis née, les médecins ont cru que j'avais la jaunisse, je suis née bronzée. Enfin, il y avait déjà des éléments physiques concrets qui me différenciaient du reste de ma famille, puis ensuite ces sons. Et encore de manière naturelle, c'est à moi que ma grand-mère s'est confiée pour me dire qu'elle savait pas qui était son père biologique. Il y a eu comme ça des...
À quel âge ?
Ça, j'avais 20 ans quand elle m'a dit ça.
Et à ce moment-là, il n'y avait aucune, aucune question d'origine qui pouvait être inuite jusqu'à 20 ans, ou il y avait une espèce de tabou, de non-dit ?
Un tabou, des non-dits.
Et donc, ouais. Toi, tu le ressentais ?
Oui, très fort. Ouais. Mais déjà, même à l'école, on n'apprenait malheureusement pas grand-chose des cultures autochtones, mais dans les livres d'histoire, il y avait des photos de femmes amérindiennes, puis souvent, à l'école, on m'appelait Pocahontas. C'est un peu mon surnom. Enfin, déjà, on faisait des rapprochements physiques des portraits de ces femmes. Donc, après, je sais plus dans quel ordre ça arrive. Il y a la mémoire, il y a les souvenirs, mais il y a tout ce que l'on crée aussi. Donc, je veux pas dire que c'est la vérité, mais c'est aujourd'hui ma mémoire. Est-ce que c'est parce qu'on m'a donné cette image-là que j'étais cherchée, ou est-ce que c'est parce que je le ressentais? Je sais plus dans quel ordre ça s'est fait. Je veux pas prétendre quoi que ce soit, mais en tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu, où d'un coup, je me sentais interpellée mais très fortement, très très fortement par l'histoire des Autochtones, comme si c'était mon histoire, en fait. Mais du fait d'être née à Montréal, au Québec, c'est mon histoire, c'est mon territoire, c'est qu'on ait l'ADN ou pas, c'est il y a une partie de notre histoire au Canada qui a été cachée, qui est restée dans l'ombre pendant très longtemps. Et je sentais bien que planait dans ma famille beaucoup de non-dits. Puis déjà dans ma famille, elle est entre les deux océans. J'ai la famille française, la famille canadienne. D'ailleurs, mes arrière-grands-parents ont construit leur maison à Saint-Dizier-du-Moucherotte, à côté d'Autran, là où on est. Donc c'est pas loin de mes origines ici. Mais c'est un mélange où il y avait un trouble. Et ce trouble... se dissipait ou devenait joyeux quand je me mettais à chanter. C'est comme si ces manques se comblaient. Et justement, par ces questions identitaires, je suis venue en France en 2009 en me disant peut-être que... Parce que je me sentais pas complètement proche de mes pères québécois. Enfin, comme si déjà je me sentais différente. Donc je me disais, c'est peut-être parce que j'ai la double nationalité. Je vais venir en France un peu vérifier tout ça. Puis finalement... ça a été un gros choc culturel quand je suis arrivée en France. Mais c'est...
De quel ordre?
Y a plein de faux amis entre le Québec et la France. On a l'impression de parler la même langue, mais c'est pas vrai. Enfin, le rapport à l'autre... c'est très différent. En fait, j'avais l'impression qu'en France, quand tu rencontres quelqu'un, tu te méfies jusqu'à preuve du contraire. Tandis qu'au Québec, on t'aime bien jusqu'à preuve du contraire. Il y a toujours, la preuve du contraire qui est quelque part, qui va se révéler d'elle-même. Mais il y a une approche vraiment très différente, une hiérarchie aussi, une importance de la lignée, de quelle famille tu viens, quelle école tu as fait. Enfin, c'est
en France,
ouais, des conventions qu'on n'a pas, qu'on a moins au Québec. Et en même temps, une stimulation. Enfin, j'aimais bien tout reconstruire ici. Finalement, je suis restée d'ailleurs. Ça fait 10 ans. On est en 2019 et je suis encore en France. Mais
ta quête date d'avant, quand même.
Ouais, elle date d'avant, mais c'est vrai que c'est à Paris. J'étais tellement déstabilisée dans mon identité que je suis revenue. La distance m'a permis un recul. Parce qu'au Québec, même là, je m'en rends compte avec mon film, c'est confrontant. Il y a une honte sur le dos des Blancs, des Québécois, de cette histoire qui a été cachée et qui est une histoire souffrante. Enfin, là, on est en train de pouvoir parler de génocide. L'avancée des tests ADN permettent de dévoiler que quand Christophe Colomb est arrivé en Amérique et qu'il aurait découvert les Amériques, et ben apparemment il y avait plus de 100 millions d'autochtones, donc c'était plus peuplé qu'en Europe, ce qui est énorme. Enfin, c'est comme si notre territoire corporel ressentait ces souffrances, une honte qu'on, c'est pas qu'on la cherche ou qu'on la veut, mais elle est là. Enfin, elle nous est, on sait pas très bien d'où on vient. Mais moi, je suis arrivée en France, j'étais impressionnée de me rendre compte à quel point tous les Français connaissaient leur histoire. Qu'en Québec, en fait, ils la connaissent. C'est l'impression que moi, j'en avais. Peut-être que c'est pas complètement ça, mais en tout cas, moi, j'avais vraiment l'impression que notre histoire, elle est toute jeune et en même temps, elle est très ancienne et qu'on la connaît pas parce que on a cherché à nous la cacher, pas parce qu'on ne veut pas savoir. Et ça, ça m'a frustrée en fait. Ça a développé un peu une colère qui est que j'ai dépassée puisque je pense que la colère c'est bien pour comme pulsion pour agir, mais si on reste dedans, y a rien qui peut devenir plus mûr dans les réflexions. Mais ça m'a donné une espèce de pulsion de départ quand j'étais à Paris, cette colère d'en avoir marre, d'avoir honte d'être québécoise, le complexe d'infériorité par rapport à la France, et de me rendre compte aussi en étant en France de la beauté de l'ouverture québécoise, en fait, de retrouver une fierté aussi. Et par rapport aux Autochtones, une envie vraiment de comprendre d'où ça venait. C'est quand j'étais à Paris que j'ai contacté une communauté inuite à Ottawa. Je me suis rendu compte que d'aller dans le Grand Nord, c'était inaccessible sans moyens, enfin sans connaître des gens là-bas. Et donc, j'ai fait plusieurs appels jusqu'à ce que je tombe sur Charlotte Romanik, qui est une Inuk qui vit à Ottawa. Et on s'est parlé très longtemps. Elle était intriguée de savoir c'était quoi mon histoire de champ de gorge naturel. Intriguée, un peu méfiante aussi.
Mais à ce moment-là, tu n'avais pas fait de travail artistique sur ce champ de gorge.
Non,
tu n'avais pas encore... Oui, voilà.
Ouais, c'était pas encore de l'art. C'était encore de l'ordre des sondes. C'était plus comme si j'avais une intuition profonde que ces sons étaient révélateurs d'une histoire très intime et à la fois collective.
Mais est-ce que tu écoutais les disques et tu les reproduisais à partir des disques?
Oui, ben le disque, toujours le même, celui que j'avais entendu vers l'âge de 12-13 ans. J'avais que ça comme...
Et à Paris, tu t'es pas rapproché de la collection Okora avec tout un tas d'ethnomusicologues qui...
Dans un deuxième temps. Je voulais d'abord que ce soit les Inuits qui me le fassent découvrir avant de... Ça a été après où je suis allée dans les archives du Québranlig, Radio France, où il y avait pas mal d'enregistrements, en fait, mais où je me suis dit l'intérêt pour moi à ce moment-là de ces chants, c'est pas de connaître mieux ces chants ou de l'apprendre de la part d'ethnomusicologues français, c'est de...
De s'en emparer.
De voir ce que ça pouvait révéler comme histoire et donc de vraiment commencer des recherches dans ma famille généalogique, de savoir, mais OK, alors, qui est le père de ma grand-mère si c'est pas celui qu'on pense, qui... d'autres noms dits, enfin, puis après, beaucoup de questions qui restent encore aujourd'hui en suspens, mais en tout cas, ça a été vraiment cette intuition profonde qu'il fallait que je suive les sons de ces chants inuits. Ce qui m'a amené donc aux Inuits. Donc c'est vraiment dans ce sens-là que ça s'est fait. C'est pas parce que j'ai rencontré des Inuits que j'ai découvert le champ de gorge. C'est parce que j'avais l'impression d'avoir le champ de gorge à l'intérieur de moi que je suis allée vers les Inuits. Comme si le champ était venu me chercher. de manière complètement irrationnelle, parce que Charlotte m'a dit, ben, c'est pas un cours de musique, d'ailleurs c'est pas vraiment de la musique, c'est une rencontre d'âmes, et pour voir si nos âmes se rencontrent, faut que tu viennes à ma rencontre. Donc fallait que je mette tout de côté pendant tout un automne, que mais c'était tellement fort que je l'ai fait, en fait c'était comme pas une question, j'ai tout mis en suspens dans ma vie, j'ai pris un billet d'avion et je suis allée passer l'automne 2014 avec elle dans sa communauté à Ottawa.
Et déjà tu avais t'as eu cette envie ou cette préoccupation d'en faire un document, enfin au moins de garder un document de ta quête, et donc t'avais une caméra qui te suivait ou que tu avais toujours avec toi?
Qui me suivait, comme j'étais le guide aussi dans le film, enfin plus comme une amorce, on découvre ce que je découvre, ce que j'observe. Mais j'ai travaillé avec Julie Guigné dès le départ, où elle m'a suivie dans cette quête. Elle était, je pense, fascinée aussi par ça. Et je savais que c'était pas que mon histoire.
Et d'une certaine manière, ça t'aidait aussi à porter cette difficulté, cette souffrance.
Ben, le fait que Julie me suive, c'était de pouvoir avoir un dialogue, et pas juste avec les Inuits, parce que quand j'ai rencontré Charlotte, sa famille, c'est tellement déstabilisant que des fois, je savais pas si j'étais à ma place. Il y avait aussi des malaises. D'avoir Julie, c'était d'avoir une alliée où je me sentais moins seule aussi. De ma culture, être déstabilisée par toutes sortes de détails qui devenaient tellement gros que ça devenait comme des petites révolutions internes. Et d'être à deux, ça m'a beaucoup aidée dans cette recherche. Et c'est vrai que quand j'étais à Ottawa, je me suis rendu compte que il fallait pas juste que j'apprenne un chant, mais il fallait que j'apprenne une culture. Il fallait que je me suis investie dans la communauté là-bas Inuit comme bénévole. Il y a une école réservée aux Inuits à Ottawa et j'ai pris tous les cours d'histoire donnés par une prof Inuk. Je voulais vraiment réapprendre l'histoire du Canada d'un autre point de vue, en fait.
Et qu'est-ce que cela t'a révélé au niveau de la connaissance, au niveau de l'histoire? Qu'est-ce que cela t'a révélé?
Ben, que c'était pas une histoire en noir et blanc. C'était pas des archives. C'était une histoire au présent. Et ça, c'est à la fois incroyable et excitant, enfin autant désolant qu'excitant, parce que je me dis, on a encore un pouvoir, on peut encore écrire l'histoire. Tout n'est pas perdu, j'ai encore une mainmise ou une responsabilité ou un potentiel d'action sur ça. Et Charlotte, qui a mon âge, 32 ans, ben sa grand-mère est née dans un igloo, donc c'est en très peu de temps, on est passé des igloos à Facebook, donc il y a quelque chose de... C'est improbable, mais en même temps, je me suis dit, il faut s'intéresser, il faut apprendre, il faut aller vers eux, il faut tendre des mains. Et c'est normal qu'il y ait une méfiance, parce qu'il y a une souffrance qui est encore tellement à fleur de peau. Les pensionnats, c'est la génération de la mère de Charlotte. Donc oui, c'est une génération qui est un peu anéantie, enfin, alcoolique, avec plein de problèmes d'addiction, mais c'est des problèmes qui viennent de l'histoire. C'est révélateur de la souffrance de l'histoire, où on a arraché les enfants de leur famille, on leur a empêché de chanter, de faire du chant de gorge, de faire les danses à tambour, de parler leur propre langue, et tout ce qui était lié à leur culture, en leur disant que ça évoquait le diable.
Mais tu sais qu'en France, c'est pareil.
C'est-à-dire?
Ben, c'est-à-dire, on a interdit les Bretons à parler le breton, on leur a interdit de croire en leur religion, on a interdit tout ça, et de façon extrêmement sévère. Enfin, ce que je veux te dire, c'est que ce qui s'est passé en France, et l'esprit colonial, je voulais un peu en venir là, mais l'esprit colonial, machiste, dans lequel la religion a travaillé, mais c'est pas forcément tout... L'esprit religieux est modélable aussi. Par contre, l'esprit de la colonie ne l'est pas, à mon sens. Et donc, du coup, cet esprit de la colonie où il y avait une pensée unique qui devait être diffusée sur tout le territoire français, beaucoup de personnes alsaciennes, bretonnes, dans le sud, à l'ouest, ont été obligées d'arrêter de parler leur langue dans les familles, etc. Donc cette acculturation que les Inuits ont vécue, d'une autre manière et à un autre niveau, mais à une puissance tout aussi, avec des déflagrations tout aussi désastreuses, ça s'est passé aussi en France.
Ben justement, enfin c'est, c'est aussi pour ça que j'en ai fait un film, parce que c'est pas que l'histoire non plus du Canada. Enfin, là, ça peut être l'histoire de la France. Après, on parle aussi beaucoup de la situation en Australie, en Nouvelle-Zélande, enfin, dans plein d'endroits où il y a des peuples autochtones, mais pas juste autochtones, comme on peut l'entendre avec des plumes et tout ça. Enfin, juste,
non, mais là-dessus, on est d'accord. Enfin, ouais. Voilà, avec, c'est vraiment partout où s'est déployée la colonie, une destruction massive des cultures et des gens s'est effectué. Revenons donc à ton travail artistique et aux questions de l'âme, parce que on va arriver à ces questions-là graduellement. Finalement, l'art a porté cette quête, parce qu'il y avait un film et il y avait ce chant. Effectivement, c'est un chant de gorge qui habitait dans le corps. Comment il s'est transmis, toi, comment il a grandi en toi?
Mais au long de ces 7 années que ça m'a pris de réaliser ce film, j'ai ponctuellement rencontré Charlotte et elle m'a transmis les chants traditionnels. Donc c'est vraiment c'est des motifs rythmiques que l'on fait de manière canonique en canon, c'est genre de frère Jacques Inuit. Mais donc elle a nourri un langage, mais après ce langage, plus je chantais, plus j'étais à l'écoute de mon intérieur, à l'écoute de l'autre, parce que pour suivre le chant en rythme, en décalé, il faut être vraiment à l'écoute de l'autre, à l'écoute de tous les éléments autour de nous, parce que c'est des chants qui s'inspirent des éléments, des animaux, le vent, la rivière, des états, le chant de l'amour. Enfin, c'était donc une espèce de... Et comme on utilise l'inspiration et l'expiration, c'est le chant qui guide notre respiration. Je suis toujours en train de respirer, je suis pas en apnée quand je chante, mais c'est le chant qui guide le souffle, donc ce qui nous permet de vivre. Et c'était comme si mon corps pouvait concrétiser tout ce que je pouvais pratiquer en méditation ou dans d'autres formes d'art. Enfin, je suis comédienne à côté, puis ça m'aidait à placer ma voix, à travailler vraiment mon souffle, à aller chercher les émotions par la respiration aussi, et non par les souvenirs, donc ça m'aide beaucoup comme comédienne, tout ça. Mais au-delà de ça, ça a pris de plus en plus de place, où rapidement j'ai senti, en chantant, quelque chose de l'ordre de la guérison, ou quelque chose qui apaise aussi, qui m'aide à me sentir ancrée, comme si j'avais l'impression de toucher aux racines... Enfin, au sol, j'ai l'impression que ça va jusqu'au bout de mes orteils, puis quand ça remonte, puis après je me sens connectée à tout ce qui est au-dessus. Donc c'est autant le cœur de la terre et tout ce qui est au-dessus de nous. Enfin, c'est très concret par la vibration de mon corps. Enfin, il y a vraiment de l'air qui circule. C'est pas ésotérique, je sais pas comment dire, mais c'est ça qui est très jouissif, en fait, c'est de le sentir, que mon corps le ressent, puis le fait de faire vibrer des endroits dans mon corps qui ne vibrent pas quand je parle ou quand j'utilise ma voix autrement, je sens des choses qui se dénouent, je sais pas comment dire, mais ça aide à circuler. Ben d'ailleurs, le chant de gorge permet d'améliorer la circulation sanguine pour rester au chaud, parce qu'il fait très froid, dans le Grand Nord, il fait moins 50, donc... Mais vraiment, je sens que la circulation sanguine qui s'active et des choses qui se dénouent, mais de l'ordre des émotions, de l'ordre des souvenirs. Enfin, c'est un nettoyage. C'est moi qui le vis comme ça, mais ça m'aide beaucoup pour exulter des émotions. Et à la fois, je me rends compte que plus je chante, quand je chante, je me sens en réception de tout ce qui m'entoure, de toutes les énergies autour de moi. Et j'ai l'impression que ça peut m'aider à me nettoyer, mais aussi ceux autour de moi. C'est pour ça que je continue de le faire ici toute seule en France, parce que déjà il n'y a pas d'Inuit, mais aussi parce que quand je le fais avec un public, il y a toujours un binôme, seulement au lieu d'être deux femmes une en face de l'autre, mais c'est moi et le public, et je me colle à l'énergie de ce qu'il m'envoie. Je suis pas complètement dans ma bulle, en fait, je le suis un peu, mais je suis vraiment en réception, j'ai les ports ouverts, et je trouve ça génial, parce que même si je peux aller vers la colère, l'angoisse, mon souffle sait quel chemin trouver pour retrouver la tendresse et faire du bien. Et moi, c'est vrai que ça me connecte toujours à la joie profonde d'être vivante. Et ça, je me dis que c'est important pour moi de partager ce que je trouve magnifique et qui me connecte à ce qui est brut et pur, où il n'y a plus de masque ni d'illusion. J'ai l'impression que quand je chante, c'est la plus grande mise à nu que je puisse faire. Où d'un coup, Déjà, il y a très peu de mots. Parfois, j'en mets dans mon solo quand certains mots sont nécessaires, mais c'est une façon de laisser tout tomber. Enfin, je peux pas le faire à moitié. C'est un chant que je peux pas investir du bout des orteils. Je suis obligée d'être investie dans tout mon corps, toute mon âme, et je me rends compte qu'on est quand même dans un milieu, surtout à Paris, mais en tout cas, qu'on est loin de la nature, où il y a plein d'illusions. Quand j'étais dans le Grand Nord, je me suis rendu compte que à moins 50, dans ces conditions-là, on ne peut pas survivre seul. C'est impossible. Et en fait, nulle part. On est juste entouré d'illusions qui nous permettent de croire par moments qu'on peut survivre seul et qui... L'individualité, c'est important, mais c'est vrai que l'esprit de la communauté, du lien à tout ce qui nous entoure dans le Grand Nord, maintenant, ça me suit. Enfin, il est trop tard, je sais pas comment dire. On m'a transmis ça, puis j'ai ce voyage, il continue de grandir en moi. Et c'est aussi pour ça que c'est important que je le fasse dans des territoires qui nous éloignent parfois de certains essentiels, dont de le faire dans les grandes villes comme Paris et d'autres villes pour ramener les gens. Parfois, ça perturbe les gens parce que c'est presque trop intime, mais c'est d'aller toucher... Ma quête maintenant, c'est de continuer à diffuser cette lumière et d'aller toucher des émotions parfois que les gens ont et ils sont même pas au courant qu'ils les ont. Enfin, c'est à ma petite échelle, hein, sans vouloir être trop ambitieuse dans mes envies, mais en tout cas, c'est ce qui me meut, enfin, une espèce de recherche de lumière et de vérité.
Restons un peu dans le Grand Nord. Tu dis donc que les Inuits, effectivement, ont... par le lieu où ils habitent et par moins 50, et effectivement, une personne seule, une personne qui est en très grand danger. Et donc, ils ont des liens de communauté extrêmement forts, mais il me semble que la relation qu'ils ont avec tout l'environnement est une relation qui n'est pas de sujet à objet. Il me semble que la relation avec leur environnement, c'est de sujet à sujet. Et donc, les éléments que l'on qualifie comme des objets sont habités aussi, et qu'il y a donc toute une relation avec ces sujets identité naturelle. Est-ce que toi, en allant là-bas, il y a eu quelque chose de cet ordre-là, peut-être pas d'un enseignement, mais de cet ordre-là, ou peut-être intuitivement, si c'est pas verbal, intuitivement, toi, tu as ressenti des choses de cet ordre-là.
Oui, très fortement.
De quelle manière et quel sens ça a donné, Là, on est un peu dans une zone un peu difficile à en parler, puisque des fois, c'est très intuitif. Mais alors, par exemple, dans le film, il y a un chant, et moi, ça m'a interrogé, qui est sur le titre, c'est Moustiques et abeilles. Je me souviens plus. Alors, moustiques, je comprends, parce que dans le Grand Nord, il y a des moustiques l'été, mais des abeilles, je ne savais pas qu'il y en avait.
C'est que les choses évoluent, en fait, même comme le champ de la scie. Il faut qu'il y ait du bois pour qu'il y ait des scies. Donc, dans une certaine époque, les Inuits, il n'y avait pas de bois, il n'y avait pas d'arbres. Donc, les champs évoluent avec l'histoire. Donc, maintenant, comme il y a des Inuits à Ottawa et dans les villes, les champs sont empreints de cette évolution. Donc, moustiques, abeilles, c'est des choses qui viennent...
Des Inuits citadins.
Des Inuits citadins, c'est ça. C'est l'apport des Inuits citadins.
Et c'est-à-dire leur cosmogonie, on va dire, ils continuent à la vivre pour certains, enfin, ceux qui arrivent en milieu urbain.
Oui, un petit peu à leur manière, mais ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait à un moment donné le chant de la motoneige, ce qui est aussi une preuve de l'évolution, quand avant c'était juste les chiens traîneaux qui les déplaçaient. Mais ce lien à toutes les choses, mais la plupart des Inuits que j'ai rencontrés, déjà ils sont animistes, donc tout est vraiment habité d'une âme. Il y a un respect, enfin le cercle, c'est la forme qui guide la vie. Donc tout a une... Pourquoi je fais ce que je fais et quel impact cela aura. Enfin, c'est toujours quelque chose qui est dans leur... j'ai l'impression, en tout cas, dans leur façon de penser. Et quand ils tuent un animal, ils vont remercier l'animal de laisser la vie. Ils vont tout utiliser de l'animal. Enfin, il y a un respect incroyable. Même les boyaux des intestins pour faire des fils, pour coudre les bottes. C'est des fils hyper résistants, imperméables. La fourrure pour les manteaux, il n'y a rien de plus chaud. Et quand ils viennent de tuer l'animal, ils le partagent. Ils vont pas le congeler parce que c'est à ce moment-là que l'animal a le plus de nutriments, qu'il a bon goût et qu'il peut apporter le plus à l'homme. Donc, rien n'est gardé pour plus tard. Tout est partagé. Et quand il y a des restes de nourriture, c'est même annoncé à la radio locale. C'est pour ça que je veux dire que l'esprit de communauté est tellement fort et tout est lié. Si tu respectes l'animal, ben il va se montrer généreux aussi envers toi, donc il va se représenter sur ton chemin pour te nourrir. Pour eux, entre la nature, les éléments, la neige, les animaux, enfin, tout est un peu sur un pied d'égalité. Et pareil pour les moyens de communication, que ce soit par les... Enfin, tous les matins, on commençait nos journées en parlant de nos rêves, enfin, comme si c'était du même ordre que la réalité. Genre, ma grand-mère est venue me visiter.
Et du coup, est-ce que toi, tes rêves se sont modifiés et tu t'es mis à rêver de certaines choses qu'avant, tu ne rêvais pas, peut-être des entités naturelles ou peut-être des anciens qui venaient dans les rêves? Est-ce que tes rêves se sont modifiés en étant là-bas?
Mais j'ai toujours eu beaucoup de rêves, mais les rêves ont pris plus d'importance. Et maintenant, je suis attentive à des rêves qui servent à exulter mon quotidien, et des rêves aussi qui sont des visites, où les gens vraiment viennent me visiter. Et des rêves qui... Oui, j'ai eu des rêves particuliers. Enfin, j'ai eu un rêve quand j'étais dans le Grand Nord, très particulier, d'une vieille femme qui est venue me parler souvent. Et c'est tellement réel, enfin, est-ce que ça me trouble encore? Elle m'a dit des choses, j'arrive même pas encore à le dire parce que c'est trop grand, en fait. Mais c'est sûr que maintenant, j'apporte une importance à ça et à tout ce qui m'entoure, de sentir. Il y a un soir à Igloolik où mais c'était difficile, en fait. Je vivais tellement de bouleversements, et puis physiquement, puis je savais plus ce que je faisais, ce que je cherchais. Je me sentais un peu sur une autre planète, et c'était un peu difficile. Et je suis sortie dehors toute seule. Et mon parrain, de qui j'étais très proche, venait de décéder. Et je lui ai demandé de l'aide, en fait. Je lui ai dit, écoute, Dominique, viens m'aider. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de ton énergie. Et au moment où je lui parlais, il y a une aurore boréale qui s'est formée devant mes yeux, mais vraiment à hauteur d'homme. Et le matin même, Charlotte me disait que les aurores boréales, pour les Inuits, c'est l'âme des défunts qui viennent communiquer avec les vivants. Et ça m'a troublée, je savais plus en quoi croire. Et j'ai presque eu peur, donc j'ai commencé à remarcher vers la maison, puis l'aurore boréale, elle m'a suivie. Elle s'est mise à danser, et ça m'a... Et là, à ce moment-là, c'est un moment précis où je me suis sentie envahie d'une chaleur, d'un amour infini lié à tout ce qui était autour de moi, où d'un coup le ciel immense, parce qu'il faut dire qu'à Igloolik, il n'y a pas d'arbres, il y a des petites maisons basses, il n'y a rien pour arrêter le regard. Donc c'est un ciel, enfin, plus grand que j'ai jamais vu. Et d'un coup, j'avais plus le vertige. Ce ciel, il faisait partie de moi aussi, les étoiles autour, l'aurore boréale, la glace partout, le néant blanc, enfin, j'ai l'impression d'être un tout. Je sais même pas comment l'exprimer avec des mots, mais je l'ai ressenti. Et ça m'a donné une confiance en la vie. Et j'essaie de nourrir cette sensation, la mémoire de cette sensation pour m'aider à être au monde, en fait.
Mais finalement, est-ce que aussi ça donne un sens à la vie, mais aussi un sens à la mort?
Ouais.
C'est-à-dire que dans notre conception, où après c'est le néant, je ne sais pas si dans une autre conception, finalement, la question du risque ne se pose pas de la même manière, et la question de la mort ne se pose pas de la même manière.
Tout est lié. Du coup, le fait de penser à ce que tout soit lié, c'est extrêmement rassurant. Mais même le fait de pas prévoir pour le lendemain, de manger quand il y a de la nourriture, ce rapport au présent et aux besoins, moi, ça m'a vraiment fait du bien, parce que je me rendais compte que j'ai grandi dans un environnement qui induit la peur. Le fait de prévoir tout le temps, de garder pour plus tard, que ce soit de la nourriture, l'argent dans nos comptes en banque, enfin, c'est de toujours garder. Et le fait de garder, ben, c'est un peu de te dire, attention, peut-être qu'à un moment donné, t'en auras plus. Donc, c'est aussi de nous mettre dans un état de peur permanent, où on sait pas à quel moment est-ce que tout va disparaître et on aura besoin de nos réserves. Et en fait, le fait de se détacher de ça, c'est... je me sens beaucoup plus libre. Et je sais que je manquerai de rien. En fait, il n'y a pas de raison que je manque de quoi que ce soit à un moment. Enfin, on a les capacités à l'intérieur pour subvenir à nos besoins et de s'allier avec des gens qui vont nous soutenir. Et si on y croit, on va le faire. Il n'y a pas de raison qu'on s'isole sans rien. Enfin, les choses dépendent de nous, ne dépendent que de nous. Donc, si j'ai confiance en moi, ben, je vais l'avoir aux gens qui m'entourent et dans mon parcours. Enfin, ça m'a aidé. C'est une forme de... C'est quelque chose de très rassurant, en fait, de faire confiance à l'environnement, à ce qui nous entoure. Et les gens en font partie, pas que les animaux et les éléments de la nature, mais les gens en font partie.
Pour revenir à la question justement de la identité naturelle, il y a aujourd'hui une forme de combat qui, à mon sens, pourrait ou devrait devenir planétaire, qui est sur la question d'étendre les, donc le concept de génocide à écocide. Et c'est-à-dire que toute personne, groupe humain, entreprise, qui a une intention de destruction ou de mort sur une entité naturelle, sans compensation, ça c'est important, hein, eh bien, devrait être condamné et poursuivi, et en tout cas, enfin, condamné devant un jury, une cour pénale. Ta recherche et ta quête et ce que tu as trouvé et ce qui reste en suspens ou de mystérieux, ce que tu n'arrives pas à expliquer, etc., est intéressante parce que finalement, tu te situes comme un pont, voilà, entre deux cultures qui jusque-là étaient, enfin, où la relation était réellement mortifère. Et il me semble que l'art et la création artistique peut jouer un rôle prépondérant dans cette façon justement de changer de paradigme. Ça m'intéresse de la manière dont tu t'en es emparé et de la manière dont la relation aux entités naturelles s'est transformée et comment aujourd'hui, dans l'enseignement que tu pourrais avoir, est-ce qu'il pourrait y avoir quelque chose aussi de façon peut-être non dite ou de façon un peu intuitive, qui est de cet ordre-là.
Par rapport à l'enseignement, ben, je sais qu'en tout cas, la façon dont moi je m'en suis emparée, c'est parce que j'ai mon histoire et que je ne peux pas transmettre ce que Charlotte m'a transmis comme ça quand on me demande de faire des cours de chant de gorge en France, par exemple. Ça venait avec une histoire. Il a fallu que je vive avec eux pendant des années. Ça vient avec ma propre histoire personnelle. Enfin, c'est quelque chose d'un peu sacré pour moi, de précieux, cette pratique. Il faudrait même pas dire chant. Enfin, c'est une pratique vocale. C'est une façon de, c'est un langage. C'est, mais par contre, moi, je cherche à transmettre ce qui me fait du bien. Donc, j'ai développé sur mesure des ateliers d'initiation au bien-être par le son. Et on termine par le hamma, qui est le chant de basse. Mais je termine par initier les gens à ce chant-là que je me suis permis de transmettre parce que ça fait du bien. Mais il y a des choses où je dois être très à l'écoute de ce que je ressens pour pas non plus tout transmettre. Mais bon, après aussi, parfois, je me fais mes règles en faisant des erreurs. Donc, j'ai pu en faire aussi dans le passé parce que c'est une telle joie et excitation de faire ce chant que parfois, je l'ai transmis, j'aurais peut-être pas dû. Enfin, je sais pas, mais au fur et à mesure des années, je me fais des règles et j'essaie d'être très à l'écoute et dans le respect de ce qu'on m'a transmis à moi et pas à quelqu'un d'autre non plus. Et le fait de le pratiquer, comme je disais, comme ça m'ouvre les portes de réception et de sensibilité, j'essaie de me protéger aussi. J'ai des petits rituels qui commencent à s'installer, mais parce que je me les crée moi-même un peu sur mesure. Je me rends compte que j'ai besoin de me doucher longtemps après une performance parce que j'ai besoin d'eau, enfin, j'ai besoin que l'eau me passe sur le corps, me nettoyer physiquement, concrètement après de ce que j'ai peut-être pu recevoir. Enfin, je suis encore un peu en mode autodidacte sur tout ce qui énergétiquement se développe en moi parce que oui, je me sens beaucoup plus proche des entités naturelles. Enfin,
Et est-ce que la qualité du chant est différente si tu es dans le Grand Nord, sur la banquise, par moins 50 ou dans une maison, hein. On n'est pas obligé d'être dehors, à l'extérieur, peut-être que ça ne se fait pas d'ailleurs, qu'il est trop froid. Est-ce que la qualité de chant est différente là-bas qu'à Paris avec d'autres...
Ben là-bas, j'étais vraiment dans un chant traditionnel. J'étais en apprentissage, j'étais celle qui reçoit. J'étais pas encore dans l'appropriation de ce chant, en fait. Puis, l'assumer, en fait, c'est ce qui arrive. De toute façon, je pense que vraiment qu'on peut pas être un artiste sans s'approprier, que ce soit la partition d'un grand compositeur, de Bach ou n'importe qui. Il faut s'approprier pour qu'à un moment donné, ça existe par notre corps à nous. Donc, je vais pas m'en cacher, puis je m'approprie ce chant. Enfin, voilà. Mais quand j'étais dans le Grand Nord, j'étais avec Charlotte, j'étais avec les Inuits, donc j'apprenais les chants traditionnels et j'étais beaucoup plus discrète. Et maintenant, quand je vais au Québec, parfois je suis muette. En fait, je sens que le territoire est encore trop souffrant. C'est encore trop tôt pour que je me sente inspirée et libre dans ce champ. Et c'est pas pour rien que je reste finalement en France. Je me sens ici. C'est bizarre. C'est très bizarre. Peut-être que c'est vraiment le recul, la distance physique, mais ça m'apporte une liberté dans cette appropriation où j'ai l'impression de toucher à mon essence. C'est bizarre, mais ouais, toucher à mon essence plus facilement. Ici, pour l'instant, en France, qu'au Canada.
Mais si tu n'as pas le désir de retourner dans la communauté inuite, justement pour expérimenter... Alors, j'avais une question, c'était est-ce que finalement, avec les Inuits, ce n'était pas une question de qualité, mais peut-être une question de puissance du champ, vu que tu es dans le lieu de la relation de la cosmogonie. Donc j'imagine, mais peut-être que je me trompe, qu'il peut y avoir un rapport de puissance peut-être plus forte là-bas qu'ici, mais peut-être que je me trompe.
Déjà, Charlotte, en fait, elle vit son quotidien à Ottawa, mais pas dans le Grand Nord, donc elle est urbaine. Et on se revoit quand je vais au Canada. Enfin, je retourne plusieurs fois par année au Canada. J'ai besoin d'y retourner, mais après, par contre, d'aller dans le Grand Nord, d'organiser ce voyage, ça a pris plus de 2 ans juste à le mettre en place, et c'est extrêmement cher, c'est un peu inaccessible, en fait. Juste le billet d'avion, c'est 4 000 €. Après, sur place, tout vient par avion, donc c'est comme, vraiment, c'était comme, j'avais l'impression d'aller sur une autre planète. Et peut-être que maintenant, ça devient de l'ordre du rêve, ou de la, peut-être que j'ai idéalisé ce voyage, mais, pour l'instant, c'est une question de temps, mais, je sens là-bas que la honte encore, en fait, ma puissance, elle était en sourdine face aux Autochtones, parce que honte de porter aussi l'histoire du blanc, même si on est métissé et tout ça, il y a la valise, elle est lourde, et je me sens responsable aussi maintenant de comment je j'ouvre cette valise et comment je diffuse ce que j'ai reçu, ce que j'ai appris. Et je sais que c'est une question de temps et qu'il y a un moment où je trouverai l'occasion de retourner dans le Grand Nord, et ça va se faire parce que j'en ai besoin. Mais ça reste quelque chose de très précieux, et que ce soit un peu inaccessible et très rare, c'est beau aussi. Ça fait partie du cadeau qu'on m'a offert, et qu'il faut pas nécessairement que j'y aille à toutes les années, parce que déjà c'est pas possible de le faire. C'est une question de temps, même par rapport à cette honte, à l'histoire, à la parole des Autochtones qui commence à être entendue au Canada. Il y a certaines souffrances, certaines méfiances qui sont en train de s'apaiser aussi. Enfin, le fait que je ressente cette gêne parfois quand je suis au Québec, ou le fait d'être muette, c'est aussi une question de temps. Ce sera sans doute pas pareil dans 5 ans ou dans 10 ans. Et si pour l'instant j'ai besoin de retoucher à ma puissance plus loin physiquement, je vais l'écouter. Donc pour l'instant, c'est plutôt dans ces montagnes du Vercors que je sens une puissance où je peux dévoiler ma voix sans honte. Donc c'est il y a certains mouvements contraires, et en même temps ces mouvements contraires vont dans le même sens. Et ce projet et tout ça, enfin, ça m'apprend la patience, et je pense que les choses vont se faire dans leur temps. Il faut pas les précipiter. Donc je vais y aller étape par étape, mais bon, de retourner voir Charlotte à Ottawa, évidemment, de retourner voir la communauté inuite que j'ai rencontrée, évidemment aussi, mais après, j'ai besoin d'être physiquement un peu loin pour contacter ma puissance à moi.
Marie-Pascale Dubé, merci de m'avoir octroyé ce moment de cet échange. À bientôt,
plaisir,
j'espère.
Oui, à bientôt, avec plaisir. Merci de vos questions.